Je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 22. Je voudrais remercier les frères qui sont venus travailler ici cette semaine, qui nous ont fait ça. C'est le nouveau vestiaire pour les tout-petits et leurs parents. Les autres, on a l'autre vestiaire, mais déjà c'est très apprécié. C'est pratique. Vous irez juste faire un petit tour pour voir le beau travail que les frères ont fait. C'est vraiment génial. Avant que mon épouse nous lise la parole de Dieu, dans Matthieu 22, verset 15... Si toutefois vous n'avez pas une copie avec vous, si vous n'avez pas une Bible avec vous, juste levez la main. Les placeurs vont se faire un plaisir de vous apporter une copie des Saintes Écritures tournée dans Matthieu 22. Si vous n'êtes pas familier, soyez pas mal à l'aise, mais c'est important que vous puissiez voir de vos yeux la parole et que ça puisse entrer dans vos cœurs. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une copie de la Bible? Juste levez la main, les placeurs vont vous l'apporter. Oui, sur ma gauche ici, il y a quelqu'un qui en aurait besoin. Juste gardez la main levée, on vous apporte ça. J'aimerais qu'on prenne un instant de prière avant d'écouter la parole de Dieu. Au fur et à mesure que les semaines vont avancer, les nouvelles vont entrer d'Haïti. Et comme Marie-Andrée de Linois me le communiquait hier, il y a des informations qui rentrent qui ne sont pas toujours vraies non plus parce qu'elles ne sont pas à jour, elles ne sont pas justes. Et je pense spécialement à Stéphica Pierre, la fille de Socrate, l'époux de Marie-Andrée. Stéphica, sa maman est en Haïti. Stéphica est une jeune fille. Là. Et sa maman est en Haïti. Et dans le tremblement de terre, il y a une partie de sa maison qui s'est effondrée. Elle a eu le bassin brisé. Et puis, elle a perdu trois doigts. Ils ont réussi à l'amener voir des médecins. Les médecins ont dit, ça prend une intervention. On ne peut pas la faire. C'est dangereux. Ça se peut qu'il y ait une paralysie s'il n'y a pas d'intervention. Alors, Stéphica et Socrate sont partis cette nuit. Ils ont pris l'avion ce matin à 6 heures pour se rendre en République dominicaine à Saint-Domingue. De là, ils vont tenter de se rendre à Port-au-Prince, dans le quartier de Mont-Repos, pour aller voir la maman de Stéphica. Hier, je parlais avec Stéphica, puis je lui ai dit, est-ce que tu es prête à voir ce que tu vas voir? Parce qu'elle était là l'été dernier. Et Haïti, c'est Haïti. De la pauvreté, il y en a, mais ce niveau de dévastation-là... Et puis elle m'a dit, non, je ne pense pas. Alors j'ai prié avec elle. Mais vous comprenez, là, il y a des Haïtiens qui font des pieds et des mains, qui retournent là-bas pour ramener de la famille. Et j'aimerais ça qu'on puisse prier tout de suite pour Stéphica, pour les frères et sœurs qui s'en vont comme ça et qui vont arriver là-bas. Et j'imagine que le sentiment, lorsque tu mets les pieds là-bas, le cri du cœur qui doit venir, c'est « Mais où es-tu, Dieu, dans toute cette dévastation? » Alors, j'aimerais ça qu'on puisse prier tout de suite, d'accord? Père éternel, les nouvelles entrent. Certaines sont bonnes, il y a des miracles, il y a des choses tellement encourageantes, mais il y en a qui sont tristes et qui sont dures à avaler. Et elles vont continuer à entrer comme ça au compte-gouttes dans les prochaines semaines, Seigneur. Et des situations vont s'aggraver, d'autres vont s'améliorer. Mais il y a des cœurs, Seigneur, qui vont être troublés. Ce matin, je veux penser à Stéphica, je veux penser à Socrate qui vont arriver cet après-midi en République dominicaine et qui, dans les prochains jours, vont mettre le pied en Haïti, vont faire face à la dévastation, vont voir l'état des choses. Et il me semble, Seigneur, que leur cœur va crier, « Mais où es-tu, Dieu? » Seigneur, nous savons que tu es là, mais des fois, c'est tellement... irréel. Cela dépasse ce que notre cœur semble être capable d'embrasser comme souffrance, Seigneur, d'encaisser comme choc. Père, je te demande d'être avec cette jeune fille qui accourt pour aider sa maman. Qui veut, Seigneur, venir à son secours, qui veut essayer de l'aider, de faire tout ce qui est en son possible. Que pourra-t-elle faire, Seigneur? Mais tu es un Dieu bon. Et nous voulons espérer en toi. Nous voulons nous rappeler tes bontés, ta puissance et ta grandeur, Seigneur. Et sur cette terre qui a été maudite à cause du péché de l'homme, tes grâces se manifestent encore. Et nous espérerons en toi encore, Seigneur. Alors nos prières ce matin vont avec Stéphica et avec tous ces Haïtiens qui retournent là-bas pour aider la famille. le cœur troublé par l'état de dévastation. Père, viens fortifier son âme, que ses pieds soient solidement ancrés sur le rocher de notre foi, à savoir Jésus-Christ. Oui, oui, Seigneur, tu nous aimes, tu as donné ton Fils, tu n'as pas dit ton dernier mot. Viens la fortifier, viens bénir son voyage, Seigneur. Qu'elle nous revienne en nous racontant les bénédictions malgré le malheur, parce qu'elle aura vu ta bonne main, Seigneur. Accompagne Socrate, place les ressources devant eux. Seigneur, viens consoler tous les frères et sœurs haïtiens, haïtiennes qui sont sans nouvelles. Je pense à Romain. Je pense, Seigneur, aux trois sœurs de Socrate et à tant d'autres, Seigneur, sans nouvelles. Où sont-ils, Père? Sous les décombres? Où sont-ils? Viens, Seigneur, console, amène ta consolation, délivre encore des gens, Seigneur, sauve encore des vies. Et Seigneur, accorde-nous la grâce d'être les mains et les pieds de Jésus-Christ, le cœur de Jésus-Christ dans la prière et dans l'action, Seigneur. Et que cette Église n'oublie pas, Seigneur, les frères et sœurs qui souffrent et qui continuent à souffrir. Viens nous rencontrer ce matin dans ta parole. Montre-nous la grandeur et la beauté de Jésus-Christ encore une fois. Nous avons besoin de toucher Christ ce matin. Il est le rocher de notre foi. Nous avons besoin, Seigneur, d'avoir la foi. Viens nous montrer la beauté et la grandeur de Christ. Et que nos pieds chancelants, Seigneur, retrouvent une base solide sur toi, Seigneur, un repos en toi, Jésus. Nous ouvrons nos cœurs pour recevoir ta parole. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Aide-nous, Seigneur, à vivre pour ton nom. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu dans Matthieu 22, les versets 15 à 22.
Auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » « De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent.
Merci, chérie. Alors, on va passer deux dimanches sur ce passage. C'est un texte qui est important. La compréhension de notre relation avec les autorités. Le gouvernement, mais beaucoup plus largement que ça, est fondé sur ce texte-là. Comment est-ce que le peuple de Dieu, l'Église, doit répondre? Comment est-ce qu'on doit se comporter avec les autorités, avec le gouvernement, notre relation à l'État? Si je veux être un peu technique, c'est fondé là-dessus. Les apôtres ont bien compris ce que Jésus enseignait et ils vont le développer plus loin. Je vais en parler davantage la semaine prochaine, mais on passe deux dimanches sur ce passage. Jésus est encore attaqué par les autorités religieuses. La confrontation entre Jésus et les autorités juives ne va pas se calmer. Au contraire, ça va continuer à s'intensifier jusqu'à ce qu'ils parviennent à le placer sous arrêt. Et elle crucifiée. D'accord? On est en train de monter, on est dans la dernière semaine avant la crucifixion de Jésus-Christ. C'est dans cette semaine-là, probablement le mardi à ce moment-ci. Les ennemis de Jésus commencent à être à court d'arguments. Ils ne savent plus comment s'y prendre pour le coincer. Ils commencent à être à court d'arguments. Ils essaient toutes sortes de méthodes. Ils veulent le prendre au piège de ses propres paroles, mais ils n'y parviennent pas. Alors, ils vont former de drôles d'alliances pour réussir. Vous savez, dans la guerre, on peut rassembler des ennemis contre un ennemi commun. C'est exactement cela qui va se passer ici. Il va y avoir une drôle d'alliance qui va se produire et il va y en avoir plusieurs. On doit réaliser que ce sont les Romains qui vont autoriser la mise à mort de Jésus. Ils vont faire alliance, ils vont s'associer. Dans ce cas-ci, ça va être une association, une coalition contre Jésus entre deux groupes juifs qui sont opposés. Ce sont des ennemis naturels. Il y a les pharisiens qui vont envoyer leurs disciples, mais ils vont envoyer leurs disciples accompagnés des Hérodiens pour tenter de piéger Jésus. Ces deux groupes-là sont des ennemis naturels. Ils vont s'associer pour essayer de piéger Jésus. Les pharisiens étaient des docteurs de la loi, c'était des docteurs de la Bible, de la loi biblique, de l'Ancien Testament, des spécialistes de la loi, et ils prétendaient connaître et vivre au doigt et à l'œil les principes de la parole de Dieu. Ça sous-entend qu'Israël est le peuple de Dieu, le peuple choisi par Dieu, le peuple qui doit marcher dans la sainteté, le peuple qui doit honorer Dieu. Ça, ce sont les pharisiens. D'accord? Ils prétendaient marcher parfaitement selon la parole de Dieu. D'un autre côté, vous avez les Hérodiens. Leur nom nous dit qui ils sont. C'était des sympathisants d'Hérode. D'accord? Donc, leur vision à eux, c'est que ce roi Hérode, qui était en quelque sorte un roi fantoche. Okay? Hérode mangeait littéralement dans la main de Rome afin d'avoir du pouvoir. Israël est sous l'invasion romaine à ce moment-là et on prenait des autorités locales à qui on donnait du pouvoir, à condition, bien sûr, qu'on ait leur entière collaboration. Hérode collaborait avec Rome et Hérode avait des Juifs qui lui étaient sympathisants et qui disaient « Oui, c'est un roi légitime. Oui, on aimerait qu'il ait plus de pouvoir. Oui, on veut le reconnaître. » Ce sont des ennemis naturels des pharisiens. Pour eux, les pharisiens, Rome, c'est le peuple païen. Ce n'est pas le peuple choisi par Dieu, c'est les opposants. Ce sont des impurs par leur culte, par leur pratique religieuse, par leur adoration des idoles, par le fait qu'ils ne reconnaissent pas le Dieu d'Israël. C'est un peuple impur aux yeux des Juifs. Pharisiens, Hérodiens, ce n'est pas des collaborateurs naturels. Ce sont des opposants naturels qui vont s'associer, qui vont collaborer ensemble dans le but de tendre un piège à Jésus. Alors, les pharisiens se méfiaient de toute personne qui collaborait avec les païens et ils auraient été des opposants parce qu'ils sont des protecteurs de la parole de Dieu. Mais ces deux groupes-là vont s'associer contre Jésus-Christ. Ils vont tenter de piéger Jésus avec une question sur l'impôt payé à César. Doit-on collaborer avec César ou non? César, l'envahisseur païen. Est-ce qu'on doit lui payer un impôt ou non? Donc, ils tendent un piège à Jésus. Ils approchent Jésus avec une hypocrisie évidente, une hypocrisie crasse. Ça se lit, Jésus le sait, c'est évident. Je ne pense même pas ici que c'est par une capacité surnaturelle. C'était gros comme le bras, d'accord? Ils s'en viennent avec toutes sortes de flatteries, des choses qu'ils ne croient même pas. Ils disent à Jésus, « Nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Mais s'ils croyaient cela, il y avait juste à obéir à Jésus. Tu n'essaies pas de piéger quelqu'un que tu honores comme enseignant la parole de Dieu. C'est un mensonge gros comme le bras. Mais ils approchent Jésus avec ça. Si Jésus enseigne la vérité, tu te soumets à lui. C'est un peu comme une personne qui dit que Jésus est un grand sage. D'accord? Je veux juste faire une petite parenthèse. C'est un peu comme lorsque des gens vont vous dire « Jésus est un grand sage, mais ces personnes-là ne sont pas prêtes à lire ce que Jésus a enseigné. Ces gens-là ne sont pas disposés à lire les évangiles. Ces gens-là ne sont pas disposés à savoir ce que ce grand sage a enseigné. » Si je respecte quelqu'un comme un des grands sages millénaires de l'humanité, je vais vouloir savoir ce qu'il a apporté comme sagesse à l'humanité. Et voyez-vous, dans cette idée de dire « oui, Jésus, c'est un grand sage », sans poser le geste conséquent, hein, ouais, c'est une manière de flatter un peu, de ne pas confronter, de ne pas se prononcer, de ne pas s'avancer. Si Jésus est un grand sage, lis les évangiles. Rencontre-le. Tu sauras encore mieux s'il est un grand sage. Et si tu dis encore, après avoir lu les évangiles, qu'il est un grand sage, honore sa parole. Dans leur cas à eux, l'hypocrisie va beaucoup plus loin, d'accord? Ils sont en train de tendre un piège à Jésus, ils veulent se débarrasser de lui. Jésus va exposer leur hypocrisie et on pourrait dire qu'ils sont doublement hypocrites. En effet, ils approchent Jésus en mentant avec la flatterie, prétendent le respecter alors qu'ils n'ont, dans le fond, aucun respect pour lui. C'est un mensonge évident. Mais en plus de cela, ils veulent piéger Jésus sur cette question de l'impôt payé à César, alors qu'eux-mêmes se servent de cette monnaie romaine tous les jours. Quand ça fait leur affaire, ils vont avec le système. Quand ça ne fait pas leur affaire, ils vont demander à Jésus de prendre une position qu'ils ne sont pas prêts à prendre eux-mêmes. C'est une monnaie qui porte une inscription blasphématoire aux yeux des Juifs, aux yeux des chrétiens aussi, comme on va le voir ensemble. Voyez-vous, leur question est toute simple. Lorsqu'ils disent « est-il permis par qui? » Dieu. Leur question, c'est simplement ça. Dieu veut-il que nous payions les taxes à César, l'envahisseur païen? C'est ça la question qui est posée. Dieu veut-il que nous payions la taxe à César, l'envahisseur païen? Ce qu'il cherche à faire, c'est soit mettre Jésus en disgrâce aux yeux de la foule, si Jésus se prononce en faveur de la taxe, alors qu'il y a ce sentiment que Rome ne devrait pas être là. Nous sommes le peuple de Dieu, Rome ne devrait pas être ici. Si Jésus se prononce en faveur de la taxe, Jésus va tomber en disgrâce aux yeux de la foule, ils vont discréditer Jésus. Alors, soit mettre Jésus en disgrâce auprès de la foule, soit pouvoir l'accuser de trahison contre Rome. En bon français, c'est un catch-22. D'accord? Du moins, c'est ce qu'il pense. Si Jésus se prononce en faveur de Rome, il se discréditera aux yeux du peuple. S'il se prononce contre l'impôt, il sera arrêté pour trahison contre Rome. Donc, ce qu'il cherche à faire, c'est de miner l'autorité de Jésus ou de pouvoir l'accuser de trahison. C'est ça leur plan. La réponse de Jésus. Jésus n'avait pas une pièce de monnaie romaine sur lui. Alors déjà, c'est différent un petit peu. Maintenant, on sait que Jésus vivait humblement, mais lui n'en avait pas de cette pièce de monnaie qui n'était pas un deux dollars canadien, on s'entend. Mais il n'en avait pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il leur demande, « Pouvez-vous m'en apporter un? » On pense probablement que les débats se continuent dans l'enceinte du temple. D'accord? C'est là que ça avait commencé les débats. Probablement. Si c'est le cas, c'est encore plus choquant ou plus troublant qu'on ait pu lui apporter une pièce de monnaie romaine dans l'enceinte du temple. Mais disons que lui n'en avait pas. Certains d'entre eux qui voulaient qu'il se prononce sur l'impôt à payer à César se servaient tous les jours de cette monnaie-là. D'accord? Alors Jésus leur demande de lui apporter une pièce de monnaie. Il s'agissait d'une pièce de monnaie qui était communément acceptée pour payer l'impôt à César. Cette pièce de monnaie avait une inscription de chaque côté, non seulement une effigie, un visage, mais une inscription. D'un côté, il est inscrit « Tiberius César, fils du divin Auguste », avec l'effigie de César. De l'autre côté de la pièce, il y avait une image, probablement l'impératrice Livia, l'épouse de l'empereur, personnifiant la déesse Roma, la déesse des Romains, avec l'inscription « Pontife Maxime » qui parlait du grand prêtre de la religion romaine. Voyez-vous, un certain temps après le décès d'Auguste, beaucoup plus tôt, les Romains ont décidé d'élever Auguste au rang de divinité. C'était pratique. on doit obéissance à une divinité, mais ça faisait aussi partie de leur pratique. On trouvait ça dans toutes sortes de cultures autour déjà à l'époque. Vous avez seulement à penser à l'Égypte, d'accord? Alors, quelques temps après le décès d'Auguste, Auguste a été élevé au rang de divinité, de dieu avec un petit d, si on pourrait dire, certainement un fils des dieux. Et cette monnaie qui servait à payer l'impôt présentait Tibérius comme le fils d'un dieu. Et selon les informations qu'on a par les historiens, il semble que ce culte était très populaire chez les petites gens du peuple romain, d'accord? Chez les Romains, dans la populace en général. Alors, pour un juif, tout comme pour un chrétien, cette pièce de monnaie portait un blasphème en soi. Aux yeux des juifs, tout comme aux yeux des chrétiens, il y a un seul Dieu et Auguste n'est pas un Dieu. Pourtant, ces gens qui viennent poser une question piège à Jésus avaient sur eux cette monnaie-là. Et ils s'en servaient tous les jours dans leurs transactions. C'est déjà ironique que ces hommes qui viennent piéger Jésus sur une question d'impôt à l'envahisseur romain se servent tous les jours de la monnaie romaine. Vous savez, pour un puriste qui vient poser une question sur l'impôt à l'envahisseur et qui se sert de l'argent de l'envahisseur tous les jours, c'est déjà assez ordinaire. Mais qu'un puriste religieux se serve de tous les jours d'une monnaie qui porte sur elle-même un blasphème, ça commence à être ridicule. Ils allaient avec le système quand cela leur convenait, mais ils voulaient que Jésus se prononce sur cette question-là. Comme dirait mon ami Simon Guy, Jésus l'a remis dans les dents. Maintenant, Jésus a été assez classe avec eux. Remarquez qu'il n'a pas commencé à lire ce qui était écrit sur la pièce de monnaie. Il a juste fait référence au droit de propriété, à l'effigie qu'il y avait là, au visage qu'il y avait sur cette pièce. Puis en fait, moi je perçois dans l'attitude, dans la réponse de Jésus, une espèce de désinvolture. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais pour Jésus, ça semble même pas être une question difficile. Eux, ils arrivent avec une super méga stratégie. On le tient, les copains, c'est sûr. Il est fait. On dirait que Jésus est détaché de cette question-là. Mais de qui est le visage là-dessus? César, rendez-lui ce qui est à lui, puis rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a une espèce de désinvolture, de détachement. Gardez ça à l'esprit, d'accord? C'est vraiment important d'observer la simplicité avec laquelle Jésus répond, pas parce que Jésus était hot, mais parce que ça nous parle de ce que Jésus croit. Et ça, on va le voir ensemble ce matin et la semaine prochaine. Remarquez cette désinvolture dans la réponse de Jésus, cette espèce de détachement. Alors, c'est vrai, le Fils de Dieu maîtrise complètement la situation. La réplique qu'il fait est géniale. C'est vraiment génial. Ils sont complètement coincés au niveau de la défense, au niveau de l'argument. La réponse de Jésus est parfaite. Il leur dit, regardez la pièce de monnaie. Quel visage est-ce que vous voyez dessus? C'est celle de César. Alors rendez-lui, j'imagine que c'est à lui si sa photo est dessus. Vous trouvez mon porte-monnaie, vous ouvrez mon porte-monnaie, il y a la photo d'Yannick Étier. Je veux dire, vous seriez mal pris de dire que c'est à vous, non? Rendez-moi mon porte-monnaie. Puis finalement, c'est juste ça qu'il fait. C'est simple, c'est puissant, c'est vrai, c'est complet. Et les gens quittent étonnés encore une fois par Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, les gens sont étonnés, émerveillés par Jésus à cause de sa puissance, de son autorité, des vérités qu'il enseigne, de son autorité sur les éléments de la nature. Ce thème-là revient constamment dans l'évangile de Matthieu. Vous entriez en contact avec Jésus, vous repartiez d'une rencontre avec Jésus étonné, émerveillé. C'est ce qui se passe ici avec la foule. Il maîtrise entièrement la situation. Et c'est déjà une première leçon à tirer du passage, d'accord? Une première leçon à tirer de ce passage-là. On ne gagne pas. On ne gagne pas un argument. Je m'excuse. C'est pas l'émotion. C'est l'air sec. On ne gagne pas un argument avec le Fils de Dieu. Si quelqu'un voulait me chercher un verre d'eau, ce serait génial. Je suis bouche bée. Première leçon à tirer du passage, on ne gagne jamais un argument avec le Fils de Dieu. Jamais on gagne un argument lorsqu'on décide d'essayer de coincer Jésus-Christ. Celui qui va réussir à coincer Jésus dans un coin est mieux de se lever de bonne heure. Merci. OK, merci. Celui qui va réussir à coincer Jésus dans un coin est mieux de se lever de bonne heure. Le diable a essayé. Si vous êtes familier avec l'évangile de Matthieu dans le désert, le diable a essayé très, très fort de coincer Jésus. Il s'est cassé les dents. Des dizaines de docteurs de la loi ont tenté de coincer Jésus. Ils n'ont jamais réussi. Pilate, un homme instruit, cultivé. On a l'impression que les Romains, c'était tous des gars avec un épée. Puis rah, rah, rah. C'était un homme super cultivé. A essayé de coincer Jésus. Personne n'a réussi. Tu ne rencontrerais pas Jésus de Nazareth en tentant de le coincer dans un coin avec un argument et gagner. Impossible. Jamais cela n'arrivait. Merci. Maintenant, laissez-moi rendre ça un petit peu plus pratique. Dans la phase de son ministère terrestre, alors que Jésus se promenait en guenilles, sans légion d'anges autour de lui, dans une apparence d'extrême humilité, d'accord? On ne gagnait pas un argument avec lui. Là, je suis comblé. C'est la Marie qui arrive. Merci. La belle eau, merci. Diane, je vais rester avec ta bouteille, merci. C'est pas contre toi, Herman. J'ai quelque chose de transparent ici. Vous rencontrez Jésus, il est en guenilles. Il n'y a pas d'ange de chaque côté de lui. Vous êtes incapable de le coincer. Cela ne s'est pas produit que quelqu'un gagne un argument contre Jésus de Nazareth alors qu'il était dans la phase de son ministère terrestre. Qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous allez vous présenter devant lui dans sa gloire? Assis à la droite de Dieu, avec des anges qui l'environnent, et il y a des gens qui s'imaginent qu'ils vont lui dire ces quatre vérités. Alors, de grâce, prenez le temps d'aller lire les évangiles. Allez voir la puissance de cet homme-là. Ce n'était pas juste un brillant argumentateur. Allez rencontrer cet homme qui dépasse toute sagesse et projetez-vous dans l'éternité le jour où vous devrez vous présenter devant lui. Mais comprenez que vous avez deux options. Vous croisez les doigts et vous espérez que Jésus n'existe pas ou vous vous préparez à faire face à Jésus. Il vaut mieux vous réconcilier avec lui maintenant. Parce que lorsque vous arrivez devant lui, toute bouche sera fermée. Et il vous invite, il m'invite à me réconcilier avec lui. Chacun d'entre nous. Mais on ne gagne pas un argument contre le Fils de Dieu. Ce n'est pas vrai, ce n'était pas vrai dans son ministère terrestre. Et lorsqu'il sera dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, allez lire l'Apocalypse pour saisir que vous devez vous réconcilier maintenant. Et cette leçon-là est pratique. Si elle vous semble abstraite, allumez les nouvelles pour saisir que l'éternité peut être dans 40 ans, mais l'éternité peut être dans 5 minutes. Alors, c'est pratique. Je vous parle de votre éternité. Je reviens sur l'attitude de Jésus par rapport à l'impôt et les leçons qu'on peut tirer pour l'Église de ça. Comme je disais tout à l'heure, on observe une sorte de désinvolture de la part de Jésus. Ça semble être une question facile. Il y a un certain détachement dans la réponse de Jésus en ce qui a trait à l'impôt à payer à César. Et on va continuer à le développer la semaine prochaine. Mais simplement du fait que Jésus prend cette pièce de monnaie-là, la regarde, voit l'image qu'il y a dessus, et tout ce qu'il a à dire, c'est bien, regardez, c'est l'effigie de César, rendez-la à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. On a déjà plein de leçons à tirer de ça. La deuxième leçon que j'aimerais qu'on retienne ce matin de ce passage, c'est que Jésus est plus préoccupé par ce que nous devons à Dieu qu'à César. C'est comme si César, ça devient secondaire. Écoute, ça, c'est simple. Essaie de comprendre ce que tu dois à Dieu. Ça, c'est une question très simple que tu me poses là. Laisse-moi te parler de choses sérieuses un instant. Jésus est plus préoccupé par ce que nous devons à Dieu qu'à César. Eux, ils lui parlent de l'impôt qu'on doit à César l'envahisseur, et lui, il ramène la question aux fruits que nous sommes censés apporter à Dieu. Si vous êtes avec nous depuis quelques semaines, vous pouvez vous rappeler deux paraboles plus tôt. Jésus a dit que ce qui est important, c'est le fruit que cette nation va donner. Il a dit que Dieu allait se donner un autre peuple qui allait rendre à Dieu le fruit. Alors, ce qui préoccupe Jésus, c'est qu'est-ce que nous devons rendre à Dieu? C'est ça qui préoccupe Jésus. Beaucoup plus que ce qu'on doit à César. Cette question-là est trop simple. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'on doit rendre à Dieu? C'est ça qui est important. Rendre à Dieu ce que je lui dois. Jésus dit dans Matthieu 6, 19, je vous lis les versets. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Voyez-vous, Jésus a les regards, a les yeux fixés sur le royaume des cieux. Il cherche à s'amasser un trésor au ciel, non sur la terre. Il cherche avant toute chose à plaire à Dieu et non aux hommes. Alors, ce qui est vraiment important de savoir, c'est qu'est-ce que je dois à Dieu? Cette question-là est beaucoup plus importante. Comment est-ce que je vais porter du fruit pour Dieu? Et ça va m'aider à répondre à la première question. Quand mon regard est fixé sur l'éternité, quand mon regard est fixé sur Dieu, je peux alors répondre à des questions pratico-pratiques de tous les jours, du type « qu'est-ce que je dois au gouvernement? » Quand j'ai déterminé ce que je dois à Dieu, mes intérêts personnels ont été mis de côté, mes désirs de me bâtir un petit château sur la terre ont été mis de côté, et je peux considérer comme il faut ce que je dois à César, au gouvernement, aux hommes en général. Si je veux déterminer ce que je dois à César, au gouvernement, ce que je dois à mon patron, ce que je dois à mon professeur de classe, ce que je dois à mes parents, ce que je dois à mon épouse, ce que je dois à mon mari, je dois premièrement comprendre ce que je dois à Dieu. Je dois premièrement fixer les regards sur le royaume des cieux. Jésus pouvait répondre facilement à la question des pharisiens et des hérodiens parce qu'il avait les yeux fixés sur Dieu, sur le royaume des cieux, alors que les pharisiens et les hérodiens cherchaient à se bâtir un petit royaume ici-bas. Ah là, la question devenait complexe à leurs yeux. Là, la question devenait vraiment compliquée. L'impôt à César, la question qu'ils viennent poser, peut représenter dans un sens tout ce que nous devons aux autorités et même aux hommes en général. Qu'est-ce que je dois aux autres? Dans tous mes domaines de responsabilité, tous mes champs de responsabilité, qu'est-ce que je leur dois? Et cette question-là peut représenter toutes les autres questions. Mais avant de répondre à cela, il faut premièrement déterminer ce que je dois à Dieu. En d'autres termes, Jésus dit, c'est bien de savoir ce que tu dois à César, mais assure-toi que tu sais ce que tu dois à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on doit à Dieu? On lui doit tout, évidemment, si je veux partir dans la macro, comme dirait mon ami Luc. On lui doit la vie, le mouvement et l'être, ça c'est évident, nous lui devons adoration, obéissance, amour, service, nous lui devons absolument tout. Mais pour être plus concret, nous devons chercher à lui ressembler, n'est-ce pas? Nous devons porter son nom. Nous devons chercher à lui ressembler toujours davantage, de jour en jour. Nous devons porter son nom dignement. Et quand tu mets cela en perspective, quand tu acceptes de rendre à Dieu ce que tu lui dois, alors tu peux commencer à répondre, à voir clair pour répondre aux autres questions. Qu'est-ce que je dois au gouvernement? Qu'est-ce que je dois aux autorités? Qu'est-ce que je dois aux hommes en général? Mais tant et aussi longtemps que tu n'as pas accepté de rendre à Dieu ce que tu lui dois, une vie qui porte des fruits pour sa gloire, une vie entièrement consacrée. Écoutez bien ceci, tant et aussi longtemps que tu n'as pas accepté cela, en vérité, tu ne cherches pas ce que tu dois au gouvernement, mais tu cherches ce qu'on te doit. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas tourné les regards vers le ciel, la seule question qui t'importe vraiment, c'est qu'est-ce qu'on me doit? Tu es fixé sur ton intérêt, sur ce que tu veux avoir. Tu risques d'être tourné vers toi, de revendiquer tes droits constamment plutôt que de te concentrer sur tes devoirs et sur ce qui va glorifier Dieu en toutes circonstances. Tu manques alors d'objectivité. Ton jugement est erroné. Je vous donne un exemple, un peu cru, mais je pense qu'il est juste. Moi, je dois rien au gouvernement. Moi, je dois absolument rien au gouvernement. C'est toute une gang de voleurs qui se graissent la patte. Regardez le scandale des commandites. Alors, je ne dois rien au gouvernement. Soyons honnêtes, ce sont des excuses. Ce sont des excuses que tu donnes. L'argent que tu ne donneras pas au gouvernement en travaillant au noir ou en ne payant pas tes taxes, tu ne vas pas le donner à la Croix-Rouge. Est-ce qu'on est d'accord? Tu vas le mettre dans tes poches. Alors, l'argument est très vertueux, mais le cœur est tortueux. Et tant aussi longtemps que je n'ai pas déterminé ce que je dois à Dieu, que je n'ai pas décidé de rendre à Dieu ce que je lui dois, quand je vais tenter de répondre aux autres questions, mon cœur va être faussé. Mon jugement va être biaisé. Parce que je vais être dans une démarche où je cherche mon intérêt à moi premièrement, plutôt que de chercher à glorifier Dieu en toutes choses. Or, la priorité d'un chrétien, d'un disciple de Jésus-Christ, c'est de voir ce qu'il doit à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Ensuite, ce que nous devons aux autres, au gouvernement, aux autorités, à nos parents, aux patrons, aux profs, aux policiers qui m'arrêtent parce que j'ai fait un excès de vitesse, une fois que j'ai déterminé ce que je dois à Dieu, avoir la bonne attitude et trouver la bonne réponse pour la suite va venir naturellement. La chose la plus importante dans la vie de Jésus était de faire la volonté de son Père céleste. Et ça, ça revient constamment. Jésus avait une obsession, faire la volonté de son Père céleste. Alors, lorsqu'on lui arrive avec des questions comme « Est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? », c'est une question simple pour lui. Parce qu'il sait déjà ce qu'il doit à son Père et il sait quelle attitude son Père attend de lui. Et ça va venir guider toutes ses réponses. Tu ne peux savoir ce que tu dois faire dans telle ou telle situation si tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Et je ne pourrai jamais insister suffisamment là-dessus. Tu ne peux pas savoir comment tu dois réagir au travail, comment tu dois réagir à l'école. Comment tu dois réagir dans une relation d'amitié où tu te sens froissé, rejeté, méprisé, n'importe quoi. Tu ne peux pas savoir comment tu dois réagir dans cette situation tant que tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi, ce que tu dois à Dieu. Parce que ça, ça va venir guider qu'est-ce que Dieu attend de toi dans cette circonstance-là. Jésus est venu pour donner à son Père un peuple qui rendrait des fruits qu'Israël n'avait pas rendus. Jésus est venu racheter un peuple qui allait rendre à Dieu les fruits que Dieu attendait de lui. Et lorsque vous allez retourner au travail demain matin, quand vous allez revenir dans vos relations, quand vous allez retourner à réfléchir sur votre couple, sur vos relations avec des amis, sur des situations difficiles au travail, la bonne place où commencer pour savoir ce que Dieu attend de vous dans cette situation, c'est de voir quel fruit Dieu attend de vous. Qu'est-ce que je dois rendre à Dieu? Jésus-Christ avait les yeux fixés sur l'éternité, sur le ciel. Il vivait pour l'éternité. Il vivait sous le regard de son Père. Les autres questions deviennent faciles à répondre. Mais si tu es constamment en train de lutter dans ton cœur avec des combats entre tes revendications personnelles et tous tes droits qui sont froissés, non respectés par les autres, et c'est une lutte constante, ça t'obsède, ça te prive de ta joie, ça amène de l'amertume dans ta vie, c'est que tu n'as pas déterminé ou tu n'as pas accepté de faire ce que Dieu attend de toi dans cette circonstance-là? Quels sont les fruits que Dieu attend de toi? Que tu vives pour l'éternité premièrement, sous son regard à lui, sous son jugement à lui. Que tu vives comme un pèlerin sur cette terre. Et chacune de tes décisions vont devenir possibles à ce moment-là. On va prier ensemble. Père éternel, lorsque je fréquente Jésus, lorsque je regarde Jésus aller dans les évangiles, tout semble tellement simple pour lui. C'est comme un peu irréel, Seigneur. On te regarde aller, Jésus, et on dirait que tu vivais comme dans une autre dimension. Ça semble être simple de payer l'impôt, mais je dois manger demain, Seigneur. Et ces gens sont-ils honnêtes? Est-ce qu'ils méritent que je leur donne cet argent? Tu dis, Seigneur, d'aimer mes ennemis. Mais est-ce que ce n'est pas tolérer l'injustice, Seigneur Jésus? Tout semblait simple avec toi. On dirait que c'est irréel. On dirait que tu vivais dans une autre dimension, Seigneur. Et pourtant, Seigneur Jésus, lorsque je médite sur la croix, sur le fait que bien réellement, tu as été fouetté, ton dos a été lacéré, réellement, de manière très concrète, on t'a arraché la barbe, on t'a craché au visage. Toi qui étais réellement le Fils de Dieu, tu as vraiment accepté qu'on te méprise ainsi? Seigneur, je dois reconnaître que tu vivais une vie vraie, une vie réelle sur la terre. Tu vivais vraiment humblement. Tu avais vraiment fixé les regards sur l'éternité. Seigneur Jésus, nous avons besoin que tu nous aides à vivre ta parole afin de pouvoir trouver cette paix qui te caractérisait tellement dans des moments qui suscitent en nous des conflits intérieurs incroyables. Nous devenons absorbés par ces questions, à savoir ce que nous devons aux gens, ce que je dois à mon épouse, ce que je dois à mon mari, ce que je dois à mon prof, ce que je dois aux autorités, ce que je dois à mes amis, ce que je dois au gouvernement. Et nous devenons accaparés par ces choses. Nous y perdons notre joie, Seigneur. Viens nous aider à vivre ta parole afin de vivre cette paix et cette liberté qui te caractérisait. Seigneur, c'est tellement beau de voir la simplicité avec laquelle tu réponds à cette question, cette désinvolture, ce détachement. Et nous voulons croire, Jésus, que ce sont de vrais principes pour notre vie parce que tu es allé jusqu'au bout, à la croix. Tu as vraiment été crucifié et tu es vraiment ressuscité, Seigneur. Et nous voulons entrer dans cette nouveauté de vie où nous vivons pour le royaume des cieux, non pour un royaume ici-bas. Et nous considérons toujours premièrement quelle est la volonté de notre Père céleste pour savoir comment nous comporter avec les hommes, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Ce matin, on a une famille qui nous est très, très chère, qui se prépare à repartir sur le champ missionnaire avec le cœur un peu divisé. C'est les Baskounan. Pour plusieurs raisons.